La journée de la radio, c'est sur Transistor.
La journée de la radio, c'est sur Transistor, mardi 9 avril. Paysage de radio. De 6h du matin à 20h du soir, des tables rondes, des fictions, des jeux, une chasse au trésor. Pour des raisons de budget, la scène suivante sera entièrement bruitée à la bouche.
C'est le sud.
Je vous fais partager ce moment au bord d'une petite rivière. Je ne vais pas vous dire le lieu. J'écoute les oiseaux. Vous savez que bientôt on n'écoutera plus d'oiseaux.
Toi, je t'ai déjà vu quelque part. Je suis sûr que je te reconnais.
Désolé, mais c'est moi qui te reconnais. Je t'ai vu le premier. Toi, tu m'as vu en deuxième.
Je t'ai vu le deuxième, alors voilà.
Perdu. C'est aussi moi qui t'ai vu le deuxième.
Oh, dis donc, t'es super
fort. Mais je suis pas super fort, je suis mieux que ça, même, je suis sûr que ça.
En direct et en public, Salle Cantor.
Je voulais partager avec vous un petit moment de détente, loin des gilets jaunes, loin de la dissidence, loin de du nouvel ordre, loin de toute la connerie humaine.
Bon, bah lui, il va me prendre la tête.
Paysage de radio. De 6h du matin à 20h du soir, des tables rondes, des fictions, des jeux, une chasse au trésor. Transistor.
Il est midi sur Transistor et tout de suite, on enchaîne avec le journal de la rédaction Transistor Midi.
On avait rendez-vous à 9h30, il est midi.
Ah, je suis pas du tout du matin.
Enfin bon, une troisième à l'apéro de midi, toujours du blanc. À déjeuner, s'il y a de la viande, je peux passer au rouge, sinon je reste blanc. Bon, après, il faut une sieste.
Que je dois 53 à mon propriétaire qui vient encaisser à midi. Quelle heure est-il ?
Midi moins le quart.
Midi 15, rire de gorge évoquant l'orgasme. Motif blair au mâle dominant.
Comme l'annonce notre jingle, il est temps de manger, il est temps surtout d'écouter Transistor Midi. Aujourd'hui, on a avec nous nos invités de la radio Fréquence, de l'ENS de Cachan, Hichem et Max, du coup, bienvenue à vous, merci d'être venus.
Merci de nous avoir invités.
Et on commence tout de suite le journal, il est midi sur Transistor.
On a survécu à ces 6 premières heures de direct.
6h30.
6,5 premières heures de direct.
Pour la journée de la radio de Transistor sur le thème de...
Paysage de la radio.
Et il est donc temps d'annoncer le journal de la rédaction.
L'émission pivot de la journée.
J'ai nommé Transistor Midi. Bon, mais on va où du coup avec cette émission?
J'en sais rien, tu nous emmerdes.
N'empêche que j'aimerais bien savoir où on va, par simple curiosité.
Mais maintenant. Où on va maintenant?
J'en sais rien, tu nous emmerdes.
N'empêche que... J'aimerais bien savoir où on va, comme ça. Simple curiosité.
Mais il t'a dit qu'il en savait rien, que tu l'emmerdais, alors...
T'as pas de soucis, vieux. Dans la vie, tout s'arrange. T'as jamais de vraie raison de se bider. Ils peuvent pas nous faire un trou au cul, on en a déjà un.
On va quand même pas rouler comme ça, droit devant, sans savoir où. Jusqu'à ce que le réservoir soit vide.
Pourquoi pas?
Tu te sens pas un joueur?
On est pas bien?
Si.
Paisible. À la fraîche, décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander.
Au programme, l'émission politique de nos collègues de la radio Fréquence qui sont avec nous pour la journée, une chronique sur l'expo McCurry et une sur un lieu de culture, un épisode de micro-coulisses qui fera l'interview de la troupe de théâtre La Vieille Branche, une critique culturelle et un micro-trottoir ainsi qu'une chronique musicienne.
Incroyable chronique.
Une autre chronique culturelle.
Dont on a oublié le sujet.
Un horoscope.
Lyon, vous devez animer une émission mais n'avez pas d'idée, accrochez-vous.
Le désormais célèbre jeu radiophonique des poils plein les yeux.
Et l'apéro pour terminer avec la chronique œnologique puis l'émission culinaire. Sans prendre le chou.
Alors, on va où? On fait quoi?
On commence par le journal.
Alors, c'est l'heure du journal. On retrouve Marie pour le journal. Bonjour Marie. On va commencer donc par des brèves nationales, puis internationales. Alors, au sujet aujourd'hui, la taxe GAFA, le rapport du Sénat sur la dépendance et l'affaire Lactalis en Isère. Ensuite, nous ferons un tour du côté de l'international avec un sujet sur la Libye, un point sur le Brexit et les élections en Turquie. C'est parti. Donc tout d'abord, la taxe GAFA, Marie.
Oui, c'est ça. Alors le texte a longtemps fait débat, mais ça y est. Hier soir, les députés ont voté l'instauration d'une taxe sur les géants du numérique, un projet porté par le ministre de l'économie Bruno Le Maire et qui fait de la France un des premiers pays à instaurer ce que l'on appelle une taxe GAFA. Alors l'objectif, imposer à hauteur de 3% de leur chiffre d'affaires les entreprises qui font un chiffre d'affaires de plus de 750 millions dans le monde et de plus de 25 millions d'euros en France. Outre les GAFA, Mythic, Airbnb ou Instagram sont eux aussi concernés par une mesure qui devrait rapporter en 2020 650 millions d'euros. Critiquée par la droite, qui dénonce une mesure dangereuse pour l'activité des entreprises françaises, et par la gauche, qui met en garde contre une taxe dont le rendement sera trop faible pour rétablir la justice sociale, cette mesure est en tout cas une avancée majeure dont l'évolution sera suivie de près.
Et on enchaîne avec un rapport du Sénat. Donc un rapport du Sénat paru la semaine dernière, tire à boulets rouges sur la concertation grand âge et autonomie, engagée par le gouvernement il y a quelques mois pour financer le coût de la perte d'autonomie des personnes âgées dans les 10 prochaines années, la trajectoire leur paraissant pas suffisamment réaliste. Contre-pied complet du rapport Libault, remis à la ministre Agnès Buzyn le 28 mars, qui préconise la création d'une assurance obligatoire pour permettre à tous de financer les soins à domicile ou les séjours en EHPAD, tandis que le rapport Libault, lui, préconise de recourir plus classiquement à la solidarité par le biais de l'impôt. Concrètement, il faudrait dégager 9,2 milliards d'euros supplémentaires d'ici à 2030, selon M. Libault, en recourant à l'actuelle contribution au remboursement de la dette sociale qui concourt à combler le déficit de la sécurité sociale. En l'état, rien de décidé, si ce n'est que le recours intégral à l'assurance privée personnelle préconisée par le Sénat est révélateur d'un véritable tournant dans la mise en place de politiques sociales liées au vieillissement de la population. Et on enchaîne donc avec l'affaire Lactalis. Une fromagerie du Vercors, appartenant au groupe Lactalis, a été condamnée hier par le tribunal administratif de Grenoble à 50 000 euros d'amende pour ses rejets d'effluents dans une rivière. Si l'entreprise L'Étoile du Vercors a été condamnée à 100 000 euros d'amende au total, dont 50 000 avec sursis, elle a été relaxée de l'infraction d'exploitation d'une installation nuisible à l'eau ou dans un milieu aquatique non conforme à une mise en demeure. La Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature annonce une victoire en demi-teinte en raison de la faible condamnation pénale de l'entreprise, encourageant selon eux les industriels à aller devant le juge plutôt que de régulariser la situation. L'entreprise avait déjà fait l'objet de poursuites par 3 associations de protection de la nature, dont Framta, poursuite qui avait déjà abouti à une relaxe des 2 directeurs successifs précédents et seulement condamné à verser 55 000 euros aux associations s'étant constituées comme partie civile. Et donc on passe à l'international, Marie, avec la Libye.
C'est ça, un point maintenant sur le chaos qui règne actuellement en Libye, où s'affrontent donc les 2 groupes qui se disputent le pouvoir depuis le renversement de Kadhafi en 2011. Le gouvernement d'accord national, GNA, reconnu par la communauté internationale, installé à l'ouest dans la région de Tripoli, est soutenu par plusieurs milices comme les Misratis. Et dans l'est, les forces de l'armée nationale libyenne, ANL, autoproclamées et contrôlées par le général Khalifa Haftar. Alors malgré l'accord conclu par les 2 camps en février dernier, en vue de former un gouvernement unifié et d'organiser des élections, le maréchal Haftar a appelé ses troupes à marcher sur Tripoli, la capitale, où siège le gouvernement reconnu par la communauté internationale. Il a affirmé avoir mené dimanche son premier raid aérien près de Tripoli et a dirigé hier une frappe aérienne sur le seul aéroport fonctionnel du pays. L'adversaire de Haftar, le GNA, a annoncé le début d'une contre-offensive généralisée pour, je cite, « purger les villes libyennes des forces illégitimes ». Face à cette escalade des tensions et suite aux combats violents et meurtriers menés hier au sud de Tripoli, l'ONU et la communauté internationale ont unanimement appelé à une trêve des combats. Prochaine étape, la tenue d'une conférence nationale mi-avril et sous l'égide de l'ONU, une conférence qui devrait fixer une feuille de route prévoyant la tenue d'élections. À suivre donc.
Et je crois encore, Marie, que tu voulais nous parler du Brexit.
Oui, c'est ça, décidément, le feuilleton politico-dramatico-comique du Brexit ne semble jamais vouloir s'achever. Le 1er avril, nouvel épisode. Le Parlement britannique rejette les 4 motions soumises à son vote, à savoir une rupture plus douce que celle voulue par Theresa May, une remise en cause du Brexit, un second référendum, une option plébiscitée par le parti écossais SNP, ou la proposition de l'ancien ministre conservateur et pro-européen Kenneth Clerke, qui défend, lui, le maintien du pays dans l'Union douanière européenne. Face à ce refus, May demande à l'opposition, et en particulier au leader travailliste Jeremy Corbyn, de s'allier avec elle pour trouver une solution commune.
Mais si la Première ministre se montre plus encline à assouplir ses positions dans le sens d'une plus grande proximité avec l'Union européenne, elle a néanmoins sollicité un nouveau report du Brexit au 30 juin. La suite des événements, May rencontre aujourd'hui la chancelière allemande Angela Merkel, puis le président Macron, à la veille d'un nouveau sommet européen chargé d'examiner la demande de report. Le Parlement européen, dirigé par Donald Tusk, lui, a évoqué la possibilité d'un long report, d'un an maximum, pouvant être raccourci en cas d'un vote des députés britanniques en faveur de l'accord de sortie. Dans l'attente du verdict européen, la Grande-Bretagne commence à se préparer à des élections européennes qu'elle sera obligée d'organiser en cas de report du Brexit. Une situation complexe qui est encore loin d'être résolue.
Et enfin, pour clore ce journal international, on va faire un petit tour du côté de la Turquie.
Exactement, puisqu'on va parler d'un revers électoral majeur qui est celui de l'AKP, le parti du président turc Erdogan. Lors des élections municipales du 31 mars dernier, en effet, le parti de la justice et du développement, AKP, a perdu le soutien des deux villes les plus importantes du pays, Istanbul et Ankara, deux villes qui étaient jusqu'alors des bastions de l'AKP. L'explication, l'AKP est d'abord vue comme responsable du chômage, de la récession et de la production industrielle en baisse depuis la dépréciation de la livre turque entamée à l'été 2018. Certains électeurs se sont également détournés de l'AKP suite à une campagne d'Erdogan marquée par l'agressivité vis-à-vis des partis de l'opposition et notamment vis-à-vis des deux partis kurdes, le PKK, qualifié de terroriste, et surtout le HDP, qui s'inscrit lui dans une logique de légalité mais a néanmoins été violemment réprimé par le parti d'Erdogan. Mais si les résultats sont décevants pour Erdogan, la perte d'Istanbul et d'Ankara ne doit pas faire oublier que l'AKP reste néanmoins le parti dominant sur l'échiquier politique. Le président turc a dénoncé les irrégularités du scrutin, mais la demande de récomptage des votes par l'AKP a été rejetée aujourd'hui. Le défi pour les partis d'opposition est maintenant d'arriver à approfondir leur programme et cesser de se contenter d'être de simples opposants à Erdogan, une situation à suivre de près.
Merci beaucoup Marie et Benoît pour ce journal. Et tout de suite Benoît, on passe à un billet d'ici, c'est ça?
C'est ça.
Et tu vas nous parler aujourd'hui d'un lien entre l'actualité des élections américaines et de la weed, ou sapin pour les intimes.
Exactement. Alors que le Nouveau-Mexique est devenu le 24e État des États-Unis à décriminaliser la possession de petites quantités de cannabis le 3 avril, et que les primaires démocrates et républicaines ont débuté en vue des élections générales de l'an prochain, la marijuana est passée sur le devant de la scène médiatique depuis quelques mois comme enjeu de ces futures élections. En effet, jamais un nombre si important de candidats n'auront été en faveur du retrait de la weed de la liste des substances contrôlées par la Drug Enforcement Administration et donc d'une légalisation fédérale de la dite substance. Il fut un temps où il était tabou pour les candidats présidentiels de parler de la marijuana. Bill Clinton disait en avoir fumé mais avoir crapoté, Obama avait confessé avoir été jusqu'à inhaler et à s'être fait un petit rail de coke dans sa jeunesse, tout en conspuant une consommation reflétant selon lui les difficultés d'un jeune adolescent. Il va sans dire que les deux présidents avaient largement continué la so-called war on drugs et maintenu le joug de la prohibition au niveau fédéral. Parler de marijuana comme enjeu politique est presque devenu mainstream aujourd'hui, tant par le fait que tous les démocrates se soient rangés derrière la volonté de la légalisation, que du fait, plus rigolo encore, que le seul adversaire républicain de Donald Trump, Bill Weld, soutienne la proposition.
Alors comment expliquer une telle évolution?
Tout d'abord, il n'est pas sans savoir que la marijuana constitue un véritable phénomène culturel de l'autre côté de l'Atlantique. Et ce, depuis les communautés noires américaines des civil rights jusqu'à la contre-culture plus générale des 70s. Déjà en 63, le sociologue Howard Baker avançait dans son livre Outsiders, en utilisant les consommateurs de marijuana comme exemple aux côtés du milieu du jazz, tous deux considérés comme déviants, que la déviance n'était qu'une construction sociale destinée à persuader la population de craindre et de criminaliser certains groupes sociaux. D'autre part, comme on le remarque souvent dans la vie politique américaine, les enjeux progressistes se sont peu à peu imposés en suivant l'organisation scalaire du système électoral, débutant par une petite entrée à l'échelle communale grâce aux actions des communautés racisées à travers le mouvement de décriminalisation des années 70, puis d'une légalisation médicale dans les années 90, et enfin, depuis 2012, à la progressive légalisation au niveau des États, débutant au Colorado et Washington. Selon une étude menée par le Pew Research Center l'an passé, ce serait près de 62% de la population américaine qui serait aujourd'hui en faveur de la légalisation de la marijuana au niveau fédéral.
Mais concrètement, quelles conséquences pourrait avoir cette légalisation?
Eh bien, ces conséquences sont avant tout sociales. Le fait que la marijuana devienne l'enjeu phare de la campagne de 2020 est présenté par les démocrates comme celui d'une plus grande justice sociale, et particulièrement raciale, reprenant tout ou partie les arguments de la sociologie de l'école de Chicago et de Baker, devenue largement connue du grand public. C'est une opération de décatégorisation qu'espèrent les politiques démocrates. En promouvant le retrait de la weed des substances contrôlées, certaines communautés seraient d'autant moins stigmatisées et automatiquement envoyées en prison, déjà largement surpeuplées de personnes racisées. Plus pragmatiquement, pour les démocrates, soutenir cette mesure revient aussi simplement à regarder les sondages et à voir qu'une large partie des soutiens qu'elle n'avait pas réussi à mobiliser en 2016, comme les Afro-Américains, sont un important soutien à la légalisation. Sans nécessairement prendre un risque d'empowerment de ces communautés.
Cette frange.
En ce que les noms.
Cette frange de la population.
Et en ce que le nombre de multinationales se sont déjà emparées des bénéfices tirés de la marijuana aux dépens des communautés qui en faisaient leurs revenus.
Alors, une avancée à relativiser donc.
Oui et non. Les mesures entourant la décriminalisation de la marijuana ont prouvé leurs retombées positives pour les populations concernées, au moins d'un point de vue juridique. Et ces mesures restent des exemples d'un point de vue ultra conservateur comme la France.
Alors, merci Benoît pour ce billet d'ici, ma foi, fort intéressant et instructif.
J'espère.
Et tout de suite, il est 12h15 sur Transistor et Nelly va nous faire la météo.